débat du jour, Jean-François Cadet.
Quel bilan pour Pascal Lamy? Demain, le directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, remplira pour un second mandat. Sans surprise, puisqu'il était l'unique candidat à sa propre succession. Est-ce à dire que son bilan est incontesté? Depuis son arrivée le 1er septembre 2005, il n'a pourtant pas réussi à boucler ce fameux cycle de Doha sur les négociations commerciales multilatérales, mais il n'y a toujours pas renoncé. Alors peut-on parler d'échec? Et si oui, cet échec lui est-il au moins en partie imputable? Quelle est aujourd'hui l'image de l'OMC? A-t-elle changé? S'est-elle améliorée? L'organisation défend-elle aujourd'hui un commerce international plus juste? On en débat ce soir avec Lionel Zinsou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la société financière PAI, membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Et avec Yves Ekoué Amaïso. Bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, directeur du groupe de réflexion Afrologie. Alors le cycle de Doha, Lionel Zinsou, c'est 8 ans de négociations et toujours pas d'accord. C'est un échec?
Non, c'est beaucoup de progrès, beaucoup de petits pas, et une organisation mondiale du commerce qui est sûrement beaucoup plus au centre de la gouvernance mondiale.
Alors, beaucoup de petits pas, grâce à Pascal Lamy?
Oh, je crois qu'il a une opiniâtreté tout à fait extraordinaire. Ce ne sont pas du tout des intérêts faciles, parce que vous avez de plus en plus de grands participants à la négociation, notamment les grands émergents sont devenus des acteurs absolument clés, fondamentaux du commerce. Évidemment pour le Brésil, par exemple, sur les produits agricoles, mais évidemment sur les services. Un pays comme l'Inde, dont la spécialité est d'exporter des services, et évidemment, dans les 8 années que vous venez d'évoquer, la Chine, pardon, est devenue l'atelier du monde en produits manufacturés.
Donc les choses ont totalement changé en 8 ans.
En tout cas, de nouveaux partenaires essentiels à l'échange ont maintenant une voix très importante et sont rentrés à l'OMC. Pour la Chine, évidemment, l'entrée dans l'OMC est fondamentale. Donc, l'OMC est devenu un forum beaucoup plus divers, avec de très grands intérêts, et donc c'est plus compliqué de diriger l'OMC aujourd'hui.
Yves Ekoué Amaïso, est-ce que Pascal Lamy a des excuses? Oui, à entendre Lionel Zinsou, est-ce qu'il a pris la bonne dimension des changements que M. Zinsou vient de décrire?
La bonne dimension, je ne suis pas très sûr. D'abord, vous avez parlé de candidat unique, c'est plus un candidat par défaut. Donc le résultat, pour moi, est beaucoup plus globalement très mitigé. Et sur le cycle de Doha, c'est un échec qu'il a reconnu lui-même d'ailleurs. Alors bien sûr, il n'est pas le seul responsable dans cette histoire, puisqu'il s'agit de discussions au niveau multilatéral. Mais le fond du problème, c'est le fait de promouvoir un commerce sans équité dans la régulation pose problème. Et vous savez que dès qu'on a des problèmes de crise, comme celui qu'on vient d'avoir en 2008, on constate justement que le commerce ne fonctionne pas tout à fait. On a eu une chute de plus de 31% en un an, en 2009, premier trimestre, et ce qui pose vraiment un problème de fond. Et donc, ce qui pose vraiment le travail à faire maintenant, ce deuxième mandat que je pense va être positif, c'est qu'il faut essayer de revoir cette marchandisation de tous les secteurs. Vous avez parlé de services tout à l'heure, vous avez parlé de biens tout à l'heure, mais il faut aussi penser qu'il y a des pays pauvres. Et certains de ces pays pauvres, pour la plupart, ne peuvent pas être régis par les mêmes règles. On verra dans le détail tout à l'heure. Donc il faut absolument corriger cela. Il y a un deuxième élément qui me pose problème, c'est la restructuration, la réforme de l'OMC comme organisation. Et là-dessus, c'est plutôt le silence.
Alors, on va revenir, mais je voudrais que Lionel Zinsou vous réponde sur la première partie de votre intervention, Yves Ekoué Amaïso. Est-ce que Pascal Lamy a été trop doctrinaire? Est-ce qu'il a oublié l'existence des pays pauvres, pour reprendre l'argument d'Yves Ekoué Amaïso?
Écoutez, prenez un test. C'est le G20, l'ouverture de la gouvernance mondiale que la crise a suscité. On a entendu la voix de l'OMC, on a entendu la voix de Pascal Lamy. Il a mis le cap sur quelque chose de très important, qui est d'essayer de sécuriser entre 20 et 30 milliards de dollars pour aider les pays pauvres dans le cadre de l'initiative globale de l'aide pour le commerce, Aid for Trade. Et ça, c'est très important, parce que ça touche quelque chose de fondamental. C'est la possibilité réelle pour les pays de mobiliser des ressources financières venant de l'ensemble des pays riches pour que les pays les plus pauvres soient capables de participer vraiment en faisant les réformes de structure, par exemple les ports en eau profonde, par exemple les infrastructures de transport aérien terrestre, leur permettant de véritablement accéder au marché. Parce que jusqu'à maintenant, on avait une conception de l'OMC et de l'échange international qui était un peu théorique. On s'intéressait aux problèmes tarifaires, aux droits de douane, on s'intéressait aux différends et aux contentieux. Toute chose très importante, hein. C'est très important que les pays d'Afrique de l'Ouest aient vu leur cas et leur cause sur le coton jugée favorablement par l'OMC, parce que petit à petit, on va venir à un démantèlement de ce qui est inéquitable dans le coton. Ça concerne des dizaines de millions, en tout cas au moins 12 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est le rôle traditionnel de l'OMC. Mais c'est aussi très important d'accéder au marché, c'est-à-dire construire aussi les routes, les ponts, les ports qui permettent d'aller vers le marché, c'est fondamental. Et ça, ça a été remis au centre assez récemment, je dirais. Enfin, cette idée Aid for Trade, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, mais vraiment, ça a été mis au centre du G20, et l'avocat de ça, l'ambassadeur de cette idée, c'est quand même Pascal Lamy, et l'OMC, ça sert également à ça.
Yves Ekwueamezo, est-ce que l'OMC a pris une nouvelle dimension grâce à Pascal Lamy?
Écoutez, l'aide sur le commerce, c'est relativement connu. C'est vrai qu'il a été l'avocat au niveau du G20, mais alors revenons à cette aide sur le commerce. Cette aide dans la pratique, il faut que je dis bien dans la pratique, surtout pour les pays qui sont faibles, et qu'est-ce qui se passe? On leur dit simplement, écoutez, si vous ne voulez pas signer ceci ou cela, ou marcher sur tel ou tel axe, mais écoutez, vous n'aurez pas cette aide-là. C'est le premier élément. Donc, il y a un élément de chantage dans cette histoire qui n'est pas encore tout à fait clarifié. Il y a un deuxième élément sur le coton. Écoutez, il faut qu'on soit précis. C'est vrai que l'organe de règlement des différends, il est parfaitement neutre, puisqu'il vient justement de condamner les Américains à payer justement ce qui s'est passé avec les Brésiliens, sur le coton, justement. Mais la réalité, c'est que la plupart des pays africains, Burkina, Togo, Mali, qui font le coton, mais ils n'ont pas pu, manque de moyens, peut-être manque de courage, justement, s'allier avec le Brésil pour attaquer les États-Unis. Et qui va oser s'attaquer les États-Unis sur, justement, les subventions dans le domaine des cotons? Je ne parle même pas du côté agricole en général, où on va venir peut-être sur l'Union européenne. Le fond du problème, c'est que c'est un système qui permet, sur papier, parce que c'est en fait ça, que ça se présente dans les principes comme quelque chose d'égalitaire, mais dans la réalité, les rapports de force sont tellement mis en avant que les pays, sur le coton, je viens de le dire, mais dans l'aide du commerce qui est utilisée par d'autres moyens, à ne pas avancer. Ça va très loin. Mmh. C'est que l'Union africaine qui a adopté en 2004 les capacités productives, donc l'industrialisation de manière générale, et qui l'a adopté y compris avec le Maroc en passant par le Népal, n'est même pas capable de pouvoir mettre ça en jeu parce que ça a été bloqué justement pour pouvoir mettre essentiellement de l'argent dans l'aide au commerce. Donc vous voyez qu'on ne peut pas soutenir ce commerce. Alors, si on ne soutient pas la production.
Lionel Zassou.
Oui, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est dans un monde parfaitement équitable. Je suis en train de dire qu'on a fait des progrès petit pas par petit pas, que l'aide au commerce et l'augmentation importante des concours, c'est quelque chose d'important, que le fait de rapprocher le secteur privé également, qui maintenant va jouer un rôle de plus en plus important à l'OMC pour essayer d'exprimer les besoins dans les pays pauvres qui sont ceux des entreprises. Tout ça, ce sont des progrès. Je ne vous dis pas que nous vivons dans un monde où l'équité est réalisée.
Mais à propos d'équité, qu'est-ce que vous répondez à ceux comme Evo Morales, le président bolivien, dont on connaît les options politiques, qui dit l'OMC, finalement, ça a surtout pour but d'ouvrir les marchés des pays émergents aux produits des pays riches.
Non, alors ça, franchement, aujourd'hui, la situation, c'est que les pays pauvres sont également concernés. Les pays pauvres disposent d'un accès privilégié qui, quand même, est défendu par l'OMC et qui est, au fond, tout sauf les armes, tous les flux de commerce des pays pauvres vers les grands marchés, et notamment vers les marchés émergents. Mais, bien sûr, les pays développés sont protégés en termes d'accès et sans droit de douane pour les pays pauvres. Donc c'est les pays pauvres existent quand même dans le système. On est aussi dans un système.
Ils existent quand même, est-ce qu'ils existent suffisamment?
Non, mais ce sont des sujets complexes, si vous voulez. Une des choses qui est apparue, c'est que les pays émergents et les pays pauvres n'ont plus tout à fait les mêmes intérêts. Et ça, c'est une des complexités à gérer. C'est-à-dire qu'il y a des questions, prenez le coton dont on a parlé tout à l'heure, où les pays d'Afrique de l'Ouest et le Brésil avaient des intérêts communs et ont agi ensemble. Mais il y a d'autres questions pour lesquelles les grands émergents sont au fond désormais distincts complètement des pays pauvres, parce que eux peuvent profiter des conditions de l'échange international beaucoup mieux que les pays pauvres. Et donc le tiers-monde s'est cassé en deux, entre les grands émergents, les pays qui se développent le plus vite, et les pays qui sont les plus pauvres, et qu'il faut maintenant ramener plus près des pays qui se développent. Ça, si vous voulez, c'est pas Pascal Lamy et l'OMC qui l'a créé. Donc nous vivons dans un monde qui est quand même plus complexe. Vous avez des grands émergents qui ont une taille maintenant qui vaut dans beaucoup de marchés celle des pays développés. Et ça a créé une fragmentation du tiers-monde.
Yves Ekwueamezo.
Je suis d'accord sur la fragmentation, mais je continue sur mon analyse. L'OMC vient de sortir un rapport 2009 qui porte sur ce qu'ils appellent les engagements en matière de politique commerciale et des mesures contingentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en train de mettre en place ce qu'on appelle la flexibilité dans quoi? Dans les engagements. C'est-à-dire qu'un État qui vient à l'OMC prend des engagements commerciaux pour un certain nombre de choses et maintenant, non, la plupart ou une bonne partie de ces États ne respectent pas ces engagements-là. Donc, on a introduit la flexibilité. Voilà pourquoi je parle d'institutionnalisation de la flexibilité dans les engagements. Ça pose un problème, puisque si quelqu'un ne respecte absolument pas ses engagements, on arrive au protectionnisme. Ce que l'OMC, et Pascal Lamy en personne, s'organise pour refuter. Et là, je le soutiens parfaitement. Le problème, c'est que les pays les plus forts, les pays les plus puissants, les pays qui peuvent se permettre de ne pas respecter les décisions de l'organe de règlement, ben justement, ils vont profiter de cette flexibilité à fond. Et donc, ça pose encore un problème de fond dans la structuration même de l'OMC.
Non, mais bien sûr, ne soyons pas angéliques. Hein. Le commerce international, c'est au fond...
C'est un rapport de force.
C'est un rapport de force. C'est la guerre sous d'autres formes. Il y a des aspects de guerre commerciale. Les pays développent leurs intérêts. Il y a quand même deux choses à avoir en tête. Un, le commerce mondial a progressé à la crise près. Donc, ce que je vous dis s'arrête il y a un an. Plus vite que la croissance du produit intérieur brut de l'ensemble des États pendant des années. Et ça a été une force qui a tiré l'ensemble des économies. Donc, dans les pays émergents, dans les pays les plus pauvres, le commerce international, en se développant, et ça c'est un des effets de l'OMC, a tiré la croissance.
Donc il y a pas eu d'accord, mais on a quand même progressé.
Voilà, a réduit la pauvreté. Alors, on peut être effectivement une sorte de puriste et dire on donne trop de flexibilité et on peut aller jusqu'au protectionnisme. Le constat qu'il faut faire, c'est 10 années de régression du protectionnisme et une très très forte croissance mondiale tirée par les échanges. Il faut quand même faire ce constat.
Donc sur le constat, est-ce que vous dites bravo?
Deuxième chose, évidemment, et ça c'est peut-être le verre à moitié vide, évidemment que ça n'est pas aujourd'hui réglé pour l'ensemble du commerce mondial. Il y a beaucoup de marchés très imparfaits, si vous voulez. Quand vous voyez des émeutes de la faim, c'est que vous avez des prix qui doublent pour les produits alimentaires. Quand vous avez des choses de cette nature, quand vous voyez le baril de pétrole à $146 qui retombe à 35 en 6 mois et qui remonte à 70, vous avez des imperfections de marché. Vous avez des marchés beaucoup trop étroits. Il faut ouvrir et ouvrir et ouvrir encore.
Donc il n'y a pas assez de libéralisme.
Voilà, donc aujourd'hui, le constat n'est pas que tout est réglé, mais le constat, c'est que la croissance, elle a été tirée par le commerce, y compris pour les États les plus pauvres. Il faut faire ce double bilan de ce qui reste à faire et de ce qui a quand même été accompli.
Yves Ouamézo, il n'y a pas assez...
Dans le libéralisme, c'est clair, ça veut dire que les pays les plus faibles, je reviens encore eux, puisque j'en fais partie, ils sont stoppés dans leur programme d'industrialisation. Ils sont incapables de mettre des subventions pour soutenir les petites industries qui sont en train de se développer, en partenariat ou pas d'ailleurs. Ils sont incapables de s'organiser pour profiter des AGOA, des tout sauf les armes, etc. Donc cette flexibilité, j'y reviens encore une fois, me pose un vrai problème. Est-ce que le Togo, le Burkina, le Mali peuvent aujourd'hui, sur le coton, se permettre de mettre des droits compensateurs pour neutraliser les subventions européennes ou américaines? Non. La réalité, c'est ça, en fait. Je ne suis pas angélique, je constate, tout simplement. Alors, le fond du problème, c'est qu'il va falloir peut-être trouver un autre moyen de organiser ces négociations. Il est vrai, c'est devenu plus complexe, il est vrai qu'un certain nombre de pays pauvres, qui n'arrivent pas à s'arrimer dans le système mondial, doivent être traités carrément à part. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et ça, c'est vraiment un vrai problème de fond.
Mais monsieur Coué, vous êtes très en colère contre l'OMC, vous êtes très en colère contre monsieur Lamy. Mais vous parlez du Burkina, vous parlez des pays d'Afrique de l'Ouest. Moi, je vais vous parler aussi, si vous voulez, du Bénin, qui est mon pays. Écoutez, nous avons des excédents de paiement. Il faut savourer le fait que cela fait maintenant une dizaine d'années que l'Afrique a reconstruit ses avoirs extérieurs. Il faut quand même dire qu'il y a dans le coffre des banques centrales des États africains aujourd'hui près de $400 milliards d'excédents des paiements. Et ça, c'est quand même lié au fait que l'Afrique, puisqu'on prend cet exemple, mais on pourrait prendre celui du Cambodge et celui des pays d'Asie du Sud, il se trouve tout de même qu'il faut faire ce constat. Vous avez pris les exemples, le Burkina, oui, le Burkina ne peut pas changer à lui tout seul le marché du coton, et le Bénin non plus. Mais il se trouve quand même que ces pays ont des avoirs extérieurs qu'ils ont constitués par des excédents commerciaux et par des excédents de paiement globalement. Alors c'est quand même assez nouveau, si vous voulez, le fait que l'Afrique participe à l'échange. Vous savez, vous dites, nous sommes dans un monde complètement inégal. Quel est le seul continent qui a un excédent de sa balance commerciale avec la Chine? C'est l'Afrique. Donc il ne faut quand même pas simplifier à l'excès avec l'idée d'un pauvre Bénin, d'un pauvre Burkina, alors que, si vous voulez, on serait écrasé dans l'échange international. Ça n'est plus ça, la situation d'Afrique.
Yves Koué, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin, est-ce que vous dites
écoutez,
pas quand même...
C'est une simplification quand on sait que le Bénin, le Togo ou ces petits pays n'arrivent pas à produire des biens manufacturiers et dans l'échange avec avec la Chine, excusez-moi, la Chine prend surtout des matières premières. Mais revenons sur l'essentiel, c'est que ce commerce qui a subi des difficultés maintenant a un problème avec l'emploi. Et on a un vrai problème là-dessus. D'ailleurs, le directeur général du Bureau international du travail l'a fait remarquer que l'emploi, ben, il ne va pas. Donc on a une croissance avec du commerce, comme vous le dites, avec quelques accidents qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui ne crée plus de l'emploi. Et donc c'est ça le fond de problème. Je n'ai rien d'ailleurs contre parce qu'elle a mis personnellement.
Alors, pour terminer.
Je pense qu'il a beaucoup de difficultés pour gérer une maison aussi compliquée. Alors, mais le fond de l'histoire, c'est que je pense que le principe dogmatique qui consiste à ne pas revoir les différenciations entre et la segmentation entre les pays pose problème. Et
je pense qu'il
va y réfléchir pour le nouveau mandat dans lequel il rentre.
Alors justement, ce nouveau mandat, Lionel Zinsou, est-ce que franchement Pascal Lamy a raison de continuer à dire le cycle de dehors, on va y arriver?
D'abord oui, parce qu'on progresse petit à petit. Il y a des enjeux sur les services qui sont essentiels et il y a des enjeux agricoles qui sont essentiels. Et ils se mesurent en termes de prix, d'accessibilité à la nourriture, ils se mesurent en termes de réduction des émeutes de la faim. Donc il y a quand même des enjeux. Il faut
donc,
globalement...
Doha n'est pas mort.
Doha ne peut pas mourir parce qu'on a quand même des vrais problèmes du commerce mondial. Et puis au fond, derrière le commerce, il y a la réduction de la pauvreté et on doit progresser.
Merci beaucoup à tous les deux. Yves Ekoué Amezo, directeur du groupe de réflexion Afrologie. Merci à vous Lionel Zinsou, président de la société financière PAI et membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Restez avec nous tout de suite sur RFI, un nouveau journal.